Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il est à mes côtés dans ce studio pour vous faire du bien, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au programme de notre émission, de votre émission préférée aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet intime, presque tabou, mais c'est pas un problème ici. On va vous parler des interventions de l'intime chez la femme. Et oui, comme les hommes dont on a parlé il y a quelques temps, elles sont elles aussi de plus en plus nombreuses à vouloir modifier l'apparence de leur zone génitale pour des raisons esthétiques ou pour réparer tout simplement certains dégâts de la grossesse ou après la ménopause par exemple. Alors pour nous expliquer toutes ces interventions, nous recevrons le docteur Barbara Hersan, elle est chirurgien plastique à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, nous allons vous raconter la surprenante histoire des plantes, mais des plantes qui piquent, qui brûlent et qui tue. C'est le titre du livre de Katia Astafiev. Elle sera en ligne avec nous. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de maladresse lors des rapports sexuels.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va commencer cette émission par cette question d'Yvonne. Écoutons-la.
Je souffre d'un ulcère artériel qui dure depuis des mois. Je ne sais pas comment le soigner et à qui m'adresser. Merci beaucoup de me répondre.
Yvonne, voilà, alors pour vous répondre, nous avons fait appel à un spécialiste, le docteur Ariel Toledano, médecin vasculaire et phlébologue à Paris.
Souvent, c'est en lien avec une artériopathie, c'est-à-dire une artère qui s'est bouchée ou qui est majoritairement bouchée, c'est-à-dire sténosée. Donc, il faut prendre en charge la lésion artérielle et c'est la seule manière d'arriver à la cicatrisation de la plaie. Et donc, il faut prendre en charge cette mauvaise vascularisation par des techniques adaptées. Alors, on a aujourd'hui des traitements parfaitement adaptés pour cela. On procède à ce qu'on appelle des techniques endoluminales où on dilate des artères, on pose des stents. Donc, c'est comme ça qu'on pourra arriver à cicatriser la plaie. Chez qui elle doit aller? Dans un service de médecine vasculaire ou chez un médecin vasculaire pour qu'on évalue exactement la prise en charge de l'origine du problème.
Voilà Yvonne, j'espère que vous aurez trouvé des réponses. C'était le docteur Ariel Toledano au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre tout de suite une deuxième question pour vous. Cette fois, c'est celle que nous a laissée Romane. Écoutez bien.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question pour vous. Mon fils a la varicelle et il a vu notre généraliste qui nous a interdit de lui donner de l'aspirine ou de l'ibuprofène en cas de fièvre sans vraiment nous expliquer pourquoi. Il a dit uniquement du paracétamol si besoin. Pourquoi cette mise en garde en fait? Merci pour votre réponse. Bonne émission.
Alors Jimmy, réponse, ibuprofène et varicelle, ça fait pas bon ménage, pourquoi?
D'une façon générale, on n'aime pas du tout prescrire de l'ibuprofène ou de l'aspirine, un autre anti-inflammatoire, dans une infection virale, quelle qu'elle soit, et en particulier dans la varicelle. On pense qu'il y a un lien avec certaines surinfections cutanées graves et un syndrome assez particulier qu'on appelle le syndrome de Reye, qui peut survenir lorsque vous avez la varicelle, et que vous donnez un anti-inflammatoire type aspirine ou ibuprofène, qui va conduire tout simplement à une atteinte neurologique et hépatique, qui va ensuite tuer l'enfant tout simplement. Donc, principe de précaution, on l'emploie pas mal en ce moment, vous évitez à tout prix l'Advil, l'ibuprofène, d'une façon générale, sans avis médical, et encore plus en période de varicelle.
Très bien. Alors si l'enfant, pour le coup, parce que quand on a la varicelle, il y a parfois de la fièvre, évidemment. Pendant cette infection-là, on donne quoi? Parce que le paracétamol, a priori, on nous le conseille. Il n'y a pas ce risque-là avec le paracétamol.
Il n'y a pas ce risque-là avec le paracétamol. À l'inverse, pendant la varicelle, il y a peu ou pas de fièvre. Un enfant qui a la varicelle doit avoir 38
ou
35.
Mes enfants, ils ont eu 38 avant, hein, juste avant que les boutons sortent.
Et ça va durer 24-48 heures. En revanche, si votre enfant a 39,5, 40, une fièvre persistante en période de varicelle, on sait que c'est susceptible d'être provoqué par une surinfection que vous pouvez avoir au niveau des oreilles. Les enfants font souvent une otite pendant la varicelle puisque ça baisse en quelque sorte vos défenses immunitaires. Et puis, il peut y avoir aussi une atteinte pulmonaire de la varicelle. Donc, si votre enfant tousse en même temps, eh bien, il y a peut-être besoin d'antibiotiques. Et
donc
si
on reconsulte, on n'hésite pas.
Ne passe pas exactement sous du doliprane seul où elle persiste. Direction le médecin généraliste.
Très bien. Et pour les boutons d'ailleurs, puisqu'on parle de varicelle, tant qu'à faire, autant être très complet. Qu'est-ce qu'on met dessus? Moi, à l'époque, on mettait du mercurochrome, mais c'est plus ça, je crois, aujourd'hui.
Non, on ne met plus rien dessus. Alors, c'est vrai qu'on mettait de l'éosine.
Ah, l'éosine, oui, c'était ça plutôt.
Pour assécher les boutons. L'éosine, elle avait un problème, c'est qu'elle colorait les boutons en rouge. Désormais, il existe de l'éosine transparente. Et on se rendait compte qu'on ne voyait pas certaines surinfections. Donc, l'éosine ne sert pas à grand-chose. Si vous en mettez, mettez plutôt la transparente pour voir l'évolution des boutons. On fait une douche plutôt rapide. On ne laisse pas l'enfant macérer
dans
le
bain.
Exactement. On coupe les ongles courts, puisque souvent, l'enfant va avoir tendance à se gratter. Et ça va être source de surinfection. Et on n'hésite pas à désinfecter les boutons qui ont une tête un peu suspecte, c'est-à-dire qu'ils vont évoluer, qu'ils vont être un peu rouges, car ils peuvent tout simplement se surinfecter.
Et pour ce qui est des démangeaisons, parce que les boutons, certes, ils sont là, mais ça gratte, c'est horrible la varicelle. Donc qu'est-ce qu'on peut leur donner pour calmer tout ça?
Alors souvent, le petit enfant ne sait pas se gratter, donc il va être inconfortable. Et il ne va pas forcément quand
pour
il a
bébés,
moins d'un
ça,
an,
oui,
exactement.
Bien sûr, ouais.
Et puis à l'inverse, on va, quand ils sont un peu plus grands, ils vont tendance à beaucoup se gratter. Et là, on va donner des sirops antihistaminiques qui ont peu ou pas d'efficacité, car le mécanisme n'est pas un mécanisme allergique. Mais ce qu'on sait, c'est que ces traitements vont agir un peu comme un placebo, puisque vous donnez quelque chose à votre enfant.
C'est pour ça que les généralistes, ils ont tendance à en donner quand même.
Et puis en plus,
c'est
un petit effet sédatif, mine de rien. Et que lorsque c'est sédatif, eh bien, vous dormez un peu mieux et vous grattez un peu moins.
Et on est d'accord, Jimmy, la varicelle, bon, c'est un passage un peu difficile à passer, on va dire, mais c'est une fois dans la vie, après c'est fini, normalement.
Oui, quand c'est l'enfant. Par contre, à l'âge adulte, la varicelle est très mal tolérée, elle est source de surinfection et même d'atteinte neurologique, raison pour laquelle à partir de 12 ans, on peut vous proposer une vaccination contre la varicelle si vous ne l'avez jamais eue.
Merci beaucoup Jimmy pour ces précisions. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on place à notre invité du jour, c'est le docteur Barbara Hersant. Elle est chirurgien plastique et vient nous parler de ces chirurgies de l'intime chez les femmes. Chirurgies qui sont en augmentation ces dernières années, on va en parler. Et elle va nous détailler tout ça dans quelques toutes petites minutes. Alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble, comme tous les jours, jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Barbara Hersant. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien plastique à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et vous êtes également membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Alors quand on parle de chirurgie intime de la femme, puisque c'est notre sujet du jour, qu'est-ce que ça comprend? Parce que j'imagine qu'il y a plein de choses là-dedans. On va toucher à quelle zone précisément?
Alors, on va toucher essentiellement à la vulve, notamment aux petites lèvres, aux grandes lèvres également, au pubis. On va également toucher au vagin et à l'introïtus, qui fait partie de la vulve, et au périnée essentiellement.
Et du coup, on va toucher du coup plein de zones, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Agrandir, rétrécir, le volume, la taille, l'aspect, le contour?
Alors, par exemple, pour un pubis, on va pouvoir dégraisser, lifter un pubis après une séquelle d'amaigrissement ou après une grossesse.
Un pubis?
Oui, par liposuccion. Tout à fait. Les grandes lèvres, on va pouvoir les repulper parce que souvent, justement, après des séquelles d'amaigrissement, après grossesse, elles peuvent être se vider. La demande la plus importante, c'est l'hypertrophie des petites lèvres, donc des petites lèvres qui dépassent de la vulve, qu'on va donc régulariser. Qu'on va réduire en fait.
D'accord. Est-ce que c'est très demandé? Parce que donc on avait traité des hommes il y a quelques temps, on s'est dit pas de jaloux, on va faire aujourd'hui les chirurgies de l'intime chez la femme. Chez l'homme, vous nous aviez dit ça explose, hein, il y en a de plus en plus. Est-ce que chez la femme, on a ce même phénomène? Est-ce qu'on a des chiffres d'ailleurs qui le
Alors,
démontrent?
On n'a pas de chiffres français, mais c'est vrai que c'est une demande qui est de plus en plus importante. Par contre, on a des chiffres au Royaume-Uni. On sait que dans le secteur public, en 10 ans, il y a une multiplication par 5 des nymphoplasties chez les mineurs.
En plus, voilà. Chez les mineurs. Alors, si on prend les majeurs, et vous, c'est quelque chose que vous constatez au quotidien, j'imagine, vous en voyez de plus en plus aussi.
Ah oui, il y a une demande. Alors peut-être que c'est un tabou qui se lève aussi, que les femmes s'émancipent et font cette demande plus facilement.
Mais est-ce qu'il n'y a que ça qui pourrait faire que des femmes de plus en plus jeunes viennent ou demandent à se faire opérer? Est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs qui pourraient expliquer ça?
Oui, il y a d'autres facteurs. Il y a l'impact de la pornographie qui est aujourd'hui accessible à tout le monde. C'est facile gratuitement, d'avoir accès à des vidéos. Et si vous regardez des vidéos, eh bien, vous voyez que les vulves sont quasiment toutes opérées et maquillées.
Ah oui, dans ce qu'on voit dans ces vidéos-là, effectivement, c'est passé sous le bistouri en général. Elles ont quel âge, les femmes qui ont besoin de... On a dit, il y a quelques mineurs, évidemment, on en reparlera un peu plus en détail après, ce qu'on leur propose ou ce qu'on refuse, justement. Mais les femmes, on va dire, là, vous avez parlé de grossesse, d'amaigrissement, de ménopause. Celles qui ont ce besoin d'intervention, ces interventions en vue, elles sont dans quelle tranche d'âge?
Alors, pour moi, il y a trois types de profils. Il y a les très jeunes femmes qui ont un complexe morphologique, qui sont complexées par leur vulve, et du coup, avant de rentrer dans la sexualité, qui vont demander un avis chirurgical. Après, on a très souvent des patientes après les grossesses, qui nécessitent notamment de resserrer le vagin, donc ça, c'est ce qu'on appelle les béances vaginales. Et puis, on a les patientes plus âgées après la ménopause à cause des carences en œstrogènes.
Et du coup, quand elles viennent vous voir en consultation, elles se plaignent de quoi? Est-ce qu'il y a seulement un critère esthétique ou est-ce qu'il peut y avoir une gêne fonctionnelle dans la vie sexuelle ou la vie de tous les jours?
C'est ça, hein, la chirurgie intime gynécologique, finalement, il y a de l'esthétique, mais il y a surtout du fonctionnel. Hein. Donc, par exemple, après plusieurs grossesses, on peut avoir une béance vaginale et du coup avoir des flatulences pendant les rapports, des flatulences par le vagin, qui vexent énormément les femmes, avec les tampons périodiques qui tombent pendant les règles, tout à fait, avec ce qu'on appelle le syndrome du canadaire, c'est-à-dire le fait de relarguer de l'eau par le vagin après les bains ou la piscine.
Wow.
Donc là, c'est vraiment des signes de béance importante. Et donc là, on comprend bien qu'il faut aider ces patientes.
Et pour...
Donc ça, c'est du fonctionnel, c'est pas de l'esthétique.
Et après, il y a tout le vieillissement aussi, parce qu'on vieillit de partout, y compris de la zone intime, hein, c'est ça?
Tout à fait, sauf que après une carence en œstrogène, donc après la ménopause, le vagin, il a plutôt tendance à s'atrophier qu'à se dilater.
D'accord. Est-ce qu'il y a des ethnies, on est toutes égales, entre guillemets, par rapport à ce vieillissement dans cette zone-là?
Oui, globalement, toutes les femmes évoluent de la même manière, mais il y a des goûts, par contre, esthétiques qui sont différents entre les cultures. C'est-à-dire qu'on a remarqué chez les Africains, plutôt la culture africaine subsaharienne, on aime plutôt les sexes un peu hypertrophiques.
D'accord.
Et est-ce que certaines patientes viennent aussi en consultation car elles n'ont plus de plaisir à cause de quelque chose d'anatomique et du coup, elles cherchent à retrouver ce plaisir sexuel avec une intervention chirurgicale?
Voilà, tout à fait. Après, quand la demande elle n'est pas en adéquation avec l'anatomie, bien sûr, on adresse la patiente plutôt vers un sexologue.
Mmh. Vous nous avez parlé la dernière fois, quand on avait parlé des hommes, de ces chirurgies de l'intime chez l'homme, de ce que vous pouviez faire après un accident avec des jouets sexuels aussi, vous intervenez dans ces circonstances-là. Est-ce que chez les femmes, ça arrive aussi?
Écoutez, j'ai jamais eu ce type de demande. Par contre, ce qu'on retrouve souvent dans les interrogatoires pour des demandes de chirurgie intime, c'est souvent plutôt des antécédents de viol. Et donc une chirurgie pour de la reconstruction finalement.
D'accord. Est-ce que dans certains cas, une patiente vient vous voir et puis vous demande des choses et vous ne répondez pas à cette demande en disant non, ce n'est pas possible et c'est dur. Peut-être de dire non d'ailleurs quand on parle de l'intime. Est-ce que vous avez des refus que vous pouvez faire?
Oui, ça arrive. Après, bon, c'est quand même rare, hein, les patientes, quand elles viennent, c'est souvent que la demande est quand même motivée par quelque chose de concret. Mais quand c'est le cas, quand il y a une dysmorphophobie, hein, quand la patiente imagine quelque chose au niveau de sa vulve qui n'existe pas, qu'on ne voit pas, on l'adresse encore une fois plutôt vers un psychologue et un sexologue.
Et même chose chez les mineurs, je suppose qu'on n'opère pas une jeune fille. Si, ça peut se faire à 17 ans, 16 ans?
S'il y a des lèvres énormes, hypertrophiques,
vraiment,
presque une malformation.
Il y a une hypertrophie vulvaire majeure qui entraîne vraiment une dysfonction sexuelle très importante et que la patiente est mature, qu'elle donne son consentement, que les parents sont d'accord. On peut, 2-3 ans après la puberté, on peut agir, mais on préfère effectivement prendre en charge les majeurs.
Très bien. Docteur Hersant, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans son rendez-vous, on va passer à la pratique à présent. Et pour commencer, on va vous détailler les interventions possibles dans cette zone intime des femmes qui sont pratiquées à visée purement esthétique. Que peut-on améliorer concrètement? Quelles sont les suites aussi pour les femmes concernées? On vous dit tout dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Barbara Hersant. Vous êtes chirurgien plastique à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Vous êtes également membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Et on va débuter par les opérations donc à visée esthétique avec la nymphoplastie. Donc là, on va agir sur les lèvres pour les réduire par exemple. Pourquoi ça peut gêner des lèvres trop grosses? Il y a vraiment une taille standard en fait?
Alors, toutes les petites lèvres peuvent être plus ou moins développées, asymétriques. Hein. Si chacune, on s'observe, on verra qu'on n'a pas des petites lèvres parfaites qui ne dépassent pas des grandes lèvres. Encore une fois, c'est un complexe sur les petites lèvres, pas sur les grandes lèvres. Donc c'est vrai, quand elles dépassent trop, en général on dit plus de 4 cm,
oui,
ça peut gêner. Effectivement, en maillot de bain, on peut avoir l'impression d'avoir un petit pénis, ou ça peut être gênant sur une moto, sur un vélo, pour faire
donc
de l'équitation.
Une vraie gêne un peu fonctionnelle quand
oui,
même.
Oui, tout
hein,
à fait.
Et
oui,
pour
oui,
les rapports sexuels, ça peut...
Oui, aussi, ouais. Parfois les patientes, elles sont obligées d'écarter elles-mêmes leurs petites lèvres pour pouvoir être pénétrées, par exemple.
Donc
il peut y avoir
handicapant.
Une gêne, et puis une gêne esthétique aussi. Hein. Aujourd'hui, la plupart des jeunes femmes s'épilent intégralement, et donc elles voient leur vulve, donc elles voient les petites lèvres qui dépassent.
Et comment ça se passe concrètement, une nymphoplastie, ou comment est-ce qu'on réduit des lèvres?
On n'en pute pas, hein, Jimmy, ça c'est sûr.
J'ai parlé de réduction.
Il y a deux techniques chirurgicales. Soit on les réduit, c'est-à-dire qu'on enlève comme un quartier de fromage ou un quartier de gâteau. Comme ça, ça nous permet de garder le bord libre et de maintenir la fonction de la petite lèvre. Et certains chirurgiens excisent totalement la petite lèvre. ce qui, à mon sens, n'est pas une bonne chose, parce que les petites lèvres, elles ont quand même une fonction.
J'allais vous dire laquelle, ça sert à quoi ?
Ça permet de maintenir une certaine lubrification, de maintenir le microbiote au niveau de l'entrée du vagin, d'éviter finalement d'avoir des infections, des surinfections, des
Donc
mycoses.
Si c'est là, c'est qu'il y a une bonne raison.
Voilà, il y a une bonne raison. Et quand à la ménopause, ça peut être difficile de ne pas avoir de petites lèvres.
Peut-être que c'est n'importe quoi, mais est-ce qu'une femme aura plus tendance à venir vous voir, vous, en tant que femme, en se disant que vous allez aussi composer avec votre expérience de femme, ou c'est finalement, elle dit non, mais j'ai un chirurgien en face de moi, peu importe, et elles ne sont pas trop sensibles au sexe du médecin qui est en face d'elles.
Je pense que les femmes, pour la chirurgie intime, préfèrent voir des femmes, je pense.
Moi, je comprends, moi aussi. Si j'avais ce besoin-là un jour,
parce que vous avez fait cette distinction en disant certains chirurgiens vont enlever toutes les petites lèvres et d'autres non, sous-entendant que peut-être voilà, on n'aurait pas tous la même sensibilité et que peut-être vous faites plus attention que les autres, mais quand même, il se passe un truc de votre côté.
Alors Barbara, parfois c'est l'inverse, il y a des femmes qui, ces petites lèvres, elles sont trop fines, elles les veulent plus pulpeuses comme les lèvres de la bouche finalement. Est-ce que là, on peut faire quelque chose pour elles ?
Alors je pense que vous parlez des grandes lèvres, contrairement aux petites lèvres, et effectivement, les grandes lèvres parfois sont un peu atrophiques, c'est-à-dire qu'elles manquent finalement de graisse, et du coup, on voit les petites lèvres qui dépassent. Parfois, juste en augmentant les grandes lèvres, ça peut camoufler les petites lèvres. Donc ça, pour les augmenter, on va utiliser soit la graisse,
de la
patiente, c'est tout à fait, c'est autologue et c'est définitif. Ou alors, on peut utiliser en consultation de l'acide hyaluronique, mais dans ces cas-là, il faut renouveler l'intervention tous les 2 ans à peu près.
Vous dites la graisse de la propre patiente, de l'autogreffe, c'est ça ?
Exactement.
C'est définitif, c'est-à-dire que vraiment, ça ne bougera pas, mais ça donne des résultats satisfaisants, naturels. Vous modelez cette graisse, comment ça se passe ?
Voilà, donc on fait une petite liposuction, on purifie cette graisse, on la réinjecte au niveau des grandes lèvres, on surcorrige toujours un peu parce qu'il y a une fonte à peu près de 30% de la graisse qu'on injecte, et puis on masse à la fin de l'intervention pour avoir un résultat homogène.
C'est écolo quoi, comme intervention.
C'est du recyclage.
Super.
C'est du recyclage, pourquoi pas. Alors, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, le pubis, certaines patientes viennent, puisque justement elles vont avoir peut-être un lifting du pubis, c'est un peu étrange dit comme ça, mais de quoi elles se plaignent ?
On a bien fait le lifting du scrotum la dernière fois, pourquoi pas ta vie après tout.
Il y a des pubis qui sont tombants, qui cachent un peu, qui retombent sur la fente vulvaire, ça peut arriver. C'est surtout après des amaigrissements massifs, après obésité. Alors quand c'est en même temps qu'une plastie abdominale, finalement c'est pas un problème parce qu'on fait le lifting du pubis et la plastie abdominale dans le même temps. Donc la cicatrice c'est la même. Ça pose pas de problème. Mais il y a des patientes qui ont un ventre plat et une tose du pubis. Dans ces cas-là, on met la cicatrice dans le pli abdominal, exactement comme une césarienne, un tout petit peu plus longue. Et on va aussi associer de la liposuction.
Je crois que pour le pubis, vous, il y a une technique que vous appréciez particulièrement, docteur Hersant, c'est la radiofréquence. Qu'est-ce que c'est que ça et ça va agir comment ?
Oui, aujourd'hui, il y a des innovations en France qui consistent à passer des canules en sous-cutané et à traiter la peau, mais par l'intérieur, avec de la radiofréquence. Et ça permet de bien redraper les tissus en faisant des toutes petites cicatrices. Donc ça, c'est tout à fait intéressant quand il y a juste des toutes petits relâchements cutanés pour éviter de faire des grandes cicatrices.
Petite retouche, quoi, avec la radiofréquence.
Tout à fait.
Alors, certaines femmes veulent aussi refaire leur clitoris, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elles ?
Alors, on va plutôt intervenir sur le capuchon du clitoris. Le clitoris, c'est vraiment très rare qu'on y touche. C'est vraiment le capuchon. Parfois, le capuchon est hypertrophique, il est un peu gros. Alors, le capuchon clitoridien, c'est une espèce de petite tente cutanée qui recouvre
le... Une petite peau, hein, c'est ça ? Voilà. C'est un peu comme le prépuce, non ?
C'est exactement la même chose. Et c'est la même origine embryologique, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, on peut lifter ce capuchon clitoridien. Et puis, il y a des femmes qui souffrent de phimosis du clitoris. On en parle très, très peu. C'est extrêmement rare.
On en avait parlé chez l'homme, mais je ne savais pas chez la femme.
Voilà, c'est quand le prépuce du clitoris est fusionné. Et donc, le gland clitoridien, il peut pas sortir.
Et là, c'est quoi ? C'est comme une circoncision, finalement, aussi, pour les femmes ?
Voilà, effectivement. C'est à peu près la même chose, tout à fait.
Et après, en termes de rapport sexuel, est-ce que ça change les sensations, du coup ?
J'aurais peur, moi, de toucher proche du clitoris. On se dit que c'est une zone pleine de nerfs, évidemment. Et si on y touche, il n'y a pas un risque, ouais.
Effectivement, il y a un nerf, c'est exactement comme le pénis. Finalement, le clitoris, c'est le pénis de la femme. Donc, il y a un nerf qui se trouve à 12 heures et ça, c'est sûr qu'il ne faut pas y toucher. Mais si on touche juste au prépuce, il n'y a pas de risque.
Très bien. Docteur Hersant, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission dans laquelle on vous dit tout sur ces interventions de la zone intime chez la femme. Une tendance qui est en augmentation ces dernières années. Dans un instant, vous allez voir qu'on peut aussi pratiquer des opérations réparatrices d'un grand secours pour les femmes concernées après une grossesse ou même à la ménopause. On va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous, votre émission Santé Bien-être revient très vite, juste après un peu de musique. C'est la chanteuse Imani, ça s'appelle You Will Never Know.
It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Sur Europe 1 et son morceau You Will Never Know, la chanteuse Imani qui sera ce soir l'invitée d'Émilie Mazoyer dans Back to Live toute cette semaine de 20h à 22h. Europe 1 vous propose une série de concerts live, une bonne nouvelle totalement essentielle.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Barbara Hersan. Je rappelle que vous êtes chirurgien plastique à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et membre de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Alors, on va passer à présent aux chirurgies réparatrices de l'intime, par exemple après une grossesse. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème, justement, comme dégât peut-être même, qui a besoin finalement d'être réparé à ce moment-là?
Donc on en a parlé, hein, il y a les béances vulvo-vaginales, donc le vagin et la vulve qui sont ouverts, et avec des relâchements du périnée. Donc on va pouvoir les traiter ces patientes. Alors, en priorité, il faut une kinésithérapie périnéale. Et si ça ne fonctionne pas, on peut proposer des traitements à type de colpopérino-raphie postérieure ou lifting vulvo-vaginaux et du périnée.
Je crois que vous dites que quand c'est ce cas-là, le problème, parfois c'est une plainte du conjoint. Je trouve ça étonnant. Les femmes, elles viennent parce que le mari leur dit « Allez, vas-y, vas-y ». Enfin, c'est quoi le contexte exactement?
Non, mais elles peuvent avoir une remarque du conjoint disant qu'ils ne sentent plus tout à fait leur partenaire. Oui. Ça peut arriver.
Non, parce que vous dites périnée relâché. Déjà, tout le monde ne sait pas vraiment ce que c'est que le périnée. C'est une entité parfois obscure pour les hommes.
Redites-nous ce que c'est le périnée, d'ailleurs.
Et qu'est-ce que c'est qu'un périnée relâché? Comment se rend compte qu'on a un périnée relâché? Parce que ça doit être objectif, ça. C'est subjectif, plutôt.
Alors non, c'est assez objectif. Hein. On le voit, on peut faire un testing musculaire. Donc, le périnée, c'est la partie qu'il y a entre le vagin et l'anus. Et donc, c'est une zone où il y a les muscles releveurs notamment. Donc, c'est des muscles.
C'est un soutien pour les organes.
Exactement.
Hein, c'est ça.
C'est un soutien. C'est la ceinture du petit bassin. Et avec les grossesses, et notamment les grossesses par voie basse, eh bien, il y a un relâchement total de ces muscles. Et donc, on sent, on le touche. Hein, le périnée est relâché quand on demande de contracter. La patiente a de grosses difficultés. Et après, il peut y avoir des relâchements et des incontinences urinaires, etc.
Et c'est-à-dire que si pendant le rapport sexuel, pour être très concret, c'est-à-dire que l'homme peut se plaindre de dire c'est comme si je sentais rien, c'est pas serré les parois, est-ce que c'est une idée, c'est une image, ou et à l'inverse, est-ce que la femme elle aussi elle peut le ressentir en disant
je ne sens plus comme avant.
Oui, c'est plus les femmes d'ailleurs. Qui se plaignent de plus sentir leur partenaire.
Et là, vous faites quoi alors pour resserrer tout ça justement? C'est un lifting intérieur? Enfin, comment vous procédez?
Encore une fois, la kinésithérapie, elle est
d'abord,
obligatoire.
D'abord, bien sûr, évidemment.
Et ce qu'on fait, c'est que d'une part, on resserre les muscles et ensuite, on enlève la muqueuse vaginale et la peau périnéale en excès.
Mmh. La muqueuse vaginale, ouais. Elle sert bien à quelque chose, non, pourtant si
Oui, mais on n'enlève qu'une partie. Ah, oui, c'est exactement comme un lifting du visage. D'accord. Une fois qu'on a remis tout en tension, eh ben, y a un excès de peau qui se démasque vers les oreilles, ben, on l'enlève. Ben, c'est exactement pareil.
Oui, vous en laissez l'essentiel, qui est bien sûr très important. Mais dans quel état elles sont après? Elles sont très contentes en général de cette intervention? Ça marche bien?
Il y a quand même 2-3 semaines difficiles de suite post-opératoire où les rapports sexuels sont interdits pendant 3 semaines, 1 mois à peu près, où il n'y a pas de sport pendant 1 mois, pas de bain, pas de piscine.
Une fois que tout ça est passé, elles sont plutôt contentes?
Ah oui, elles sont très satisfaites.
Au moment de l'accouchement, certaines femmes vont avoir une épisiotomie qui peut laisser des cicatrices et parfois des douleurs aussi, parce qu'on peut se dire, une fois que c'est passé, comme une plaie qu'on a pu suturer, mais là, elles peuvent avoir une gêne fonctionnelle ou des douleurs.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de patientes qui se plaignent de cicatrices rétractiles et douloureuses sur des épisiotomies, soit qui n'étaient pas forcément bien suturées, ou alors qui se sont désunies, tout simplement, parce que c'est quand même un terrain pour la cicatrisation qui n'est pas très bon. C'est humide, c'est la vulve, c'est l'entrée du vagin. Et donc, il y a souvent des séquelles au niveau des cicatrices d'épisiotomie qu'on peut aujourd'hui traiter par la médecine régénérative, donc la graisse, par même des injections d'acide hyaluronique pour assouplir.
Vous améliorez ces cicatrices-là, en
tout
fait.
Tout à fait.
C'est ça. D'accord. Et derrière, elles n'ont plus de douleur, donc ce n'est pas une grosse intervention forcément.
Non, c'est une petite intervention, mais on peut toujours proposer quelque chose à ces patients.
Alors, on vient de parler donc, des chirurgies post-accouchement, mais plus tard, à la ménopause, qu'est-ce qui gêne les femmes dans leur vie intime? Pourquoi elles viennent vous voir?
Alors, elles se plaignent essentiellement de sécheresse, essentiellement à l'entrée du vagin et au niveau de la vulve. Et du coup, ça va entraîner ce qu'on appelle des dyspareunies, des douleurs à l'intromission pendant le rapport type de pénétration.
Mais avant de faire quelque chose de chirurgical, on propose peut-être des soins locaux, des traitements locaux?
Oui, tout à fait. Alors, des traitements locaux, il y en a plein. Il y a des lubrifiants, il y a de l'acide hyaluronique en liquide, en topique, qu'on peut appliquer. Et puis, il y a le gold standard quand même, qui est le traitement hormonal substitutif.
Mais bon, au long cours, ça peut inquiéter les femmes. Elles n'aiment pas leur... Enfin, on sait qu'aujourd'hui, on ne le recommande pas très longtemps, en tout cas.
On ne le recommande pas forcément très longtemps. Il ne faut pas avoir de facteurs de risque thromboembolique ou de cancer du sein. Mais c'est vrai qu'une patiente qui est sous traitement hormonal substitutif, elle n'aura pas ce type de problème.
L'acide hyaluronique, ça donne de bons résultats dans le vagin? Du coup, c'est des injections directement à l'intérieur?
Voilà, alors il y a l'acide hyaluronique en pommade qu'on peut appliquer, mais ça ne marche que quand on l'applique. À partir du moment où on l'applique plus,
c'est au moment du rapport sexuel, quoi, c'est ça?
Voilà, quelques jours avant. Et sinon, il y a maintenant effectivement les injections d'acide hyaluronique. On a quand même un acide hyaluronique français qui a obtenu le marquage CE pour cette indication vulvo-vaginale.
D'accord. Alors, après toutes les opérations chirurgicales qu'on vient d'évoquer, comment ça se déroule après? Vous avez dit donc pour la nymphoplastie, globalement, dès qu'on intervient au niveau de cette zone génitale, c'est 3 semaines, 1 mois, il faut compter sans rapport sexuel, avec quelques précautions, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Et puis après, en fonction de l'emploi de la patiente...
Est-ce qu'il faut s'arrêter de travailler d'ailleurs? Oui, c'est ça.
En général, ça dépend de l'intervention, mais ça peut aller...
Je ne vais pas faire une nymphoplastie, je retourne présenter mon émission l'après-midi, on est d'accord, c'est ça?
En général, il faut quand même se prendre une semaine de repos, jusqu'à 3 semaines.
Ça peut être gonflé un peu aussi, oui.
Voilà, il peut y avoir tout à fait des œdèmes et des douleurs. Donc, 1 semaine à 3 semaines en fonction du type d'emploi.
Très bien. Docteur Hersant, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce sujet très intime. Vous avez été très clair, merci encore pour toutes ces précisions. Europe 1. Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien, nous allons vous raconter la surprenante histoire des plantes, mais des plantes qui piquent, qui brûlent, qui tuent. C'est le titre du livre de Katia Astafiev. Elle sera en ligne avec nous. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Et à présent, pour notre séquence Les Bobos du quotidien, nous accueillons en ligne avec nous Katia Astafiev. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste et directrice adjointe des Jardins botaniques du Grand Nancy. Vous êtes également l'auteur du livre Mauvaise graine, la surprenante histoire des plantes qui piquent, qui brûlent et qui tue, paru chez Duno. J'adore le titre de votre livre, je vous le dis pour démarrer. Vous dites que les plantes, qu'il existe des plantes ni gentilles ni méchantes, mais tout de même, certaines sont dangereuses. Alors justement, pour démarrer, on va prendre la plus dangereuse du monde. Elle fait partie de la famille des orties, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, c'est une plante de la famille des urticacées. Alors qu'on trouve pas chez nous, heureusement, mais alors on a une espèce qui s'appelle Urtica ferox, comme son nom l'indique, qui est très féroce, qui vit en Nouvelle-Zélande. Et la pire, on la trouve en Australie, c'est Dendrocnide moroides, un petit nom compliqué. Et j'ai trouvé par exemple le témoignage d'une étudiante américaine qui, au contact de la plante, disait qu'elle a eu la sensation à la fois d'être électrocutée et aspergée d'acide chaud.
J'allais vous dire qu'est-ce qu'elle fait, parce que franchement, les orties, moi j'en ai connu toute mon enfance
dans les forêts, les balades en famille à la campagne, mais elle fait quoi concrètement sur le corps ?
Alors elle provoque une douleur très très intense, hein, puisqu'elle elle va émettre des toxines, une toxine qui s'appelle moroïdine, comme le petit nom de la plante, et c'est une molécule qui va provoquer des irritations, mais absolument intenses et absolument insupportables. Les gens qui témoignent avoir touché la plante sont presque devenus fous et racontent des douleurs insoutenables. Voilà.
Alors on va prendre un autre exemple, on parle de la berce de Cossas, une plante.
Jimmy n'y connaît rien aux plantes, hein, je vous le dis.
Oui, mais le nom comme ça, je sens que ça n'a pas l'air très sympa. La berce de Cossas, une plante qu'on dit envahissante, mais pourquoi il faut s'en méfier ?
Alors en fait, c'est la berce du Caucase, puisqu'elle vient de la région du Caucase. Voilà. Et donc, ça, c'est une plante c'est une très très belle plante d'ailleurs, hein, qui ressemble un peu à une carotte géante en forme d'un peu de parapluie, comme ça, de grande ombelle. Et puis, elle est dite envahissante ou invasive, c'est-à-dire qu'elle se propage de manière considérable et on a du mal à la maîtriser. Et puis surtout, elle est photosensibilisante, c'est-à-dire que si on la touche après s'être exposée au soleil, ou avant même, on risque d'avoir des brûlures très intenses. Et là, c'est pareil, hein, c'est pas des petites rougeurs seulement, hein, mais ça peut être des brûlures du troisième degré avec des cloques. Hein, donc c'est vraiment une plante qu'il faut pas trop caresser. Hein.
Clair, voilà. On a compris. Alors c'est un paradoxe, mais les plantes toxiques sont souvent aussi source de médicaments. Finalement, elles seraient donc pas aussi dangereuses qu'on le pense. C'est ça, expliquez-nous et peut-être donnez-nous quelques exemples.
Oui, voilà. Alors après, c'est aussi une question de dose. Hein. C'est un peu un principe dans la pharmacologie. La même molécule à dose toute petite peut soigner, mais à dose plus forte peut tuer. Voilà. Et donc, on a un certain nombre d'exemples, hein, chez les plantes qui fabriquent des molécules toxiques. Alors pour elles, c'est des mécanismes de défense, hein, parce qu'elles ne peuvent pas se sauver si elles sont attaquées par un prédateur. Donc elles fabriquent ces molécules toxiques. Mmh. Et on a l'exemple de l'if, par exemple, qui est un très bel arbre. Donc toutes les parties quasiment sont toxique, donc il ne faut pas le consommer parce que c'est mortel, hein, clairement. Et en même temps, avec cette plante, on a réussi à fabriquer l'un des médicaments les plus importants actuellement, puisqu'on en fait un anticancéreux très puissant.
Oui. Pour terminer, un mot peut-être sur la plante la plus, alors un des trios, on va dire, avec l'arsenic et d'autres, la plante la plus utilisée par les serial killers, mais qui elle aussi a pu être un médicament d'une certaine façon.
Voilà, c'est une plante qu'on appelle Strychnos nux vomica, donc la noix vomique, effectivement, qui contient un poison qu'on appelle la strychnine, qui a été utilisée et qui est encore utilisée dans certains médicaments, mais par contre qui a été aussi utilisée pour commettre des meurtres. Alors dans la fiction, hein, on en trouve dans les romans d'Agatha Christie, d'Alexandre Dumas, oui. Mais il y a également des célèbres tueurs en série, hein, comme à la fin du 19e siècle, là il y a un Américain, un Canadien, enfin, qui a tué 6 ou 7 femmes en les empoisonnant avec cette molécule.
Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup Katia Astafiev d'avoir été avec nous. Et pour en savoir plus, je vous conseille bien évidemment son livre « Mauvaise graine, la surprenante histoire des plantes qui piquent, qui brûlent et qui tuent » paru chez Dunod. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La sexo, ce sera juste après un peu de musique. Je vous propose d'écouter le chanteur Calogero avec son titre « Centre-ville ».
Minuit de centre-ville, c'est
les centres-villes sur Europe 1, un titre de Calogero tiré de son dernier album du même nom qui était sorti en décembre dernier.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1, bien sûr. Nous sommes avec vous depuis 15 heures, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, il va falloir répondre à la question de Chiara que le docteur Jimmy Mohamed va nous lire tout de suite.
Avec grand plaisir. Mon copain est assez maladroit lorsque nous faisons l'amour et cela me fait mal. Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire comprendre de faire attention à ses gestes? Bon, Catherine, je ne sais pas, je ne vais pas répondre à votre place, mais il suffit de lui dire, non, si ça se passe mal, bah, autant lui dire, plutôt que de faire semblant et d'endurer mécaniquement ce calvaire.
Ça, c'est sûr. Il a trouvé la solution, on peut raccrocher.
C'est ça, non mais de toute façon, mais vous avez entièrement raison. Bien évidemment que quand les choses se passent mal, la première des choses, c'est de pouvoir dire à l'autre qu'il suffirait de pas grand-chose, d'un angle différent, d'un rythme différent, d'une attention différente, pour que ce soit délicieux et fluide, au lieu d'être lourd, douloureux et inquiétant. Donc, sauf que c'est pas facile de parler, justement, c'est pas facile de remettre en question l'autre parce qu'on a peur de le heurter, on a peur que son orgueil soit tout d'un coup un peu malmené, qu'il se sente remis en question dans sa compétence de sexualité, dans sa compétence virile. Et souvent, à tort, les femmes se taisent en espérant qu'ils puissent découvrir qu'éventuellement ce n'est pas si confortable. Alors, on pourrait se dire que si elles ne jouissent pas, si elles sont silencieuses, peut-être qu'il se dira « mince, je ne sais peut-être pas agi de la bonne façon ». Mais en plus, non seulement elles ne disent pas, mais souvent elles laissent à penser qu'en plus c'est agréable pour que ça se termine le plus rapidement possible.
Ça s'appelle la simulation.
Ça s'appelle la simulation. Et tout ça dans le but que ça se termine rapidement parce que ce n'est pas confortable. Et vous imaginez tout d'un coup l'ampleur du malentendu. Ouais. Donc, mesdames, accordez-vous, et madame ou messieurs, parce que c'est peut-être vrai aussi dans une relation homosexuelle, accordez-vous la liberté dans la mesure où c'est douloureux de dire que c'est douloureux. Si on, ne serait-ce que, je ne parle pas que de pénétration, un appui sur vos cheveux, un corps qui est sur vous et vous étouffe. Si vous ne le dites pas...
Si vous faites complètement écraser sur le lit, surtout, dites-le.
Voilà.
Mais ça existe vraiment des gens maladroits, parce que c'est le terme qu'elle utilise, Chiara. Oui. Elle dit « mon copain est assez maladroit ». Moi, je connais les maladroits dans la vie, mais comment on peut être maladroit vraiment? Apparemment, c'est tout le temps comme ça. Hein.
Ah, mais vous avez des gens très maladroits, y compris de corps à corps, ou surtout dans le corps à corps, parce que justement, il y a une pression, un enjeu colossal, et donc une difficulté à tenir les corps, à embrasser les corps, au sens prendre dans les bras, à caresser les corps. Et du coup, c'est un geste qui part, qui donne une baigne sans le vouloir. C'est une peau qu'on écrase. C'est
une voilà. Mèche de cheveux qu'on arrache.
Une mèche de cheveux qu'on arrache.
Ça donne envie. Hein,
mais... Non, mais c'est vrai. Et c'est pas par méchanceté, ce n'est pas par agressivité, c'est par difficulté à gérer son corps dans l'espace. Vous avez des gens, par exemple, quand ils passent les portes, ils se cognent. Alors qu'ils sont largement, ils peuvent passer à deux ou à trois à la porte, mais ils se cognent parce qu'ils n'ont pas une bonne notion de leur corps dans l'espace et la notion du corps de l'autre.
Je pensais que l'espace étant limité, alors dans un lit ou ailleurs, je ne pensais pas qu'il y avait ce genre de problème à ce point-là.
Non, mais vous savez, c'est comme en voiture, vous avez des gens qui passent leur permis de conduire, mais qui, quand ils doivent déboîter, ils déboîtent leur corps, mais pas la voiture. C'est-à-dire la perception de la totalité, c'est vraiment une difficulté de perception de son corps dans l'espace et de ce qui est attribué à son corps. En l'occurrence, quand nous faisons l'amour, le corps de l'autre pris dans les bras.
Je vous vois les yeux rieurs, Jimmy.
Oui,
je
non, sais mais pas. J'aime bien l'analogie avec le déboîtement lors de la voiture. Mais...
Conduire, faire l'amour,
blague à part,
c'est pareil.
Peut-être qu'il suffit de pas grand-chose en plus. Ça peut être juste une histoire de temps, d'être trop rapide, trop
bien
pressé.
Sûr.
Ou peut-être de faire le marteau-piqueur ou à l'inverse, d'être un peu une limace. Donc en fait, j'illustre, on a bien compris ce que je voulais dire. Mais
bien sûr, notamment notre Mélanie, elle a bien compris,
oui.
Ça l'a fait rire.
Mais il suffit de pas grand-chose en réalité.
Le marteau-piqueur ou la limace, celle-là.
On l'a très bien compris.
Bon, écoutez, donc au moins, j'adore quand vous faites l'oie blanche.
Attendez, je coupe mon...
Et donc...
Donc en fait, de petits ajustements, tout simple, par le fait de parler, tu vas trop vite, tu me fais trop fort, bah, peut-être que ça pourrait marcher mieux et puis...
Enlève les piles.
Non mais c'est un vrai, c'est une
bien
vraie
sûr.
Question.
Et puis aussi prendre un peu la main, parce que d'où une femme ou un corps pénétré, qu'il soit féminin ou masculin, d'où devrait-il être essentiellement passif? Pourquoi on ne se réajuste pas? Pourquoi on ne remet pas son corps autrement? Pourquoi on ne se redresse pas? Est-ce qu'il faut rester tordu parce que l'autre vous a tordu? Vous avez aussi le droit de vous positionner de manière confortable Et à force de vous positionner de façon confortable, l'autre voit bien que c'est cette position qui vous convient bien. Donc, à moins d'être complètement idiot, assez naturellement, d'une fois sur l'autre, il va retrouver les us et coutumes de deux corps qui s'emboîtent délicieusement et non pas dans quelque chose. Même pour lui, ce n'est pas confortable dans la réalité.
Oui, marteau, piqueur ou limace, ça, c'est pas confortable.
Ça vous a plu. Bon,
très bien.
L'analogie parle à tout le monde, on a vu de quoi je voulais
merci
parler.
Merci beaucoup à tous les deux pour tous ces conseils et ces analogies, Jimmy, merci. On se retrouve bien sûr demain à la même heure.
C'était Sans Rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapportez en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org.
Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour à vous, messieurs.
Bonjour, Mélanie. Alors, Mélanie, là, j'ai un truc là. J'ai comme un grain de beauté sur le front. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil parce que je suis un peu.
Non, mais arrêtez. On en a marre des hypochondriaques. Ils sont complètement malades. Ah, oui. Bah, justement, on va parler des grands hypochondriaques de l'histoire. Richard Wagner, qui avait plein de petits bobos, ça ne l'a pas empêché de faire la tétralogie. Howard Hughes, alors lui, il vivait en reclus, mais c'est un malade.
Mais c'est Leonardo DiCaprio, Aviator.
Ah oui, c'est horrible. Et puis vous avez choisi un autre hypochondriaque célèbre mais très français.
Oui, on devine un peu dans ses rôles qu'il est hypochondriaque, c'est Michel Blanc.
Ah oui.
Si déjà avant le Covid, il avait du mal à serrer la main. Je crois que depuis, ça devient très très compliqué.
Et sinon, vous, ça va la santé?
Moi, ça va très bien, comme vous l'avez vu. Après, ce petit truc là sur le front, quand même, Mélanie, quand même.
Moi, je serais vous, je m'inquiéterais.
Oh ouais. Bon, ils essayent de piquer notre créneau de la santé, mais c'est pas grave. On leur en veut pas. On sera à l'écoute, bien évidemment, et vous aussi, restez sur Europe 1.